Pardonner aux autres est crucial de la parole du Seigneur au-dedans, le salut ce n'est pas juger, comme tes yeux sont fermés au péché des autres, ainsi doublement mes yeux sont fermés au tien, la miséricorde triomphe du jugement. Jacques 2:13 Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés, ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés, pardonnez, et vous serez pardonnés. Luc 6:37 Le pardon est la clé du progrès spirituel. À moins que nous ne pardonnions les injustices qui nous sont faites, nous ne recevons pas le pardon de Dieu pour nos transgressions. Regardez la prière du Seigneur, il n'y a qu'une seule exigence pour nous qui y soit mentionnée, pardonnez nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous pardonnons pour devenir libres de la maladie du ressentiment, qui ronge notre paix, notre amour et notre bonheur. Nous pardonnons et ne nous vengeons pas, sachant que la vengeance est réservée à Dieu, la vengeance m'appartient. 2:32-35 Romains 12:17-19 George Fox a écrit « Le pardon est plus que par la bouche. » De la parole du Seigneur au-dedans, pardonne et oublie. Le pardon c'est tout. Le défi pour nous tous dans cette vie est de pardonner et d'oublier. Nous pouvons savoir qu'une chose est mauvaise, tenter de pardonner dans notre esprit, mais ne pas pouvoir oublier, ce qui nous empêche de pardonner dans notre cœur. Le symptôme de cette servitude est de se rappeler constamment les circonstances des injustices et de les rejouer dans notre esprit, ce qui ne fait que renforcer notre ressentiment à l'égard de l'injustice initiale. Le Seigneur est notre exemple. Lorsqu'il fut crucifié, il pria le Père de pardonner à ceux qui le crucifiaient, car il ne savait pas ce qu'il faisait. Il est l'exemple suprême. Il n'y a pas de plus grande injustice que celle d'avoir été crucifié par son propre peuple, alors qu'il avait guéri des villes entières de toute maladie et infirmité, ressuscité des morts, rendu la vue aux aveugles, et n'avait parlé que vérité. Pourtant, alors qu'il était dans une douleur inimaginable et qu'il mourait, il pria pour leur pardon. Or, s'il y avait jamais eu une justification à la colère, cette horrible crucifixion de l'homme le plus humble ayant marché sur la terre devait être celle-là, et pourtant le Seigneur ne se mit pas en colère. Ainsi, par son pardon monumental envers ceux qui l'ont assassiné, nous savons qu'il n'y a jamais de justification pour nous à nous accrocher à la colère. Il était triste, d'une tristesse presque mortelle, sachant ce qui allait lui arriver. Et sa réaction fut la tristesse devant les injustices colossales qu'il subissait, mais non la colère, la tristesse, non pour lui-même, mais la tristesse de voir à quel point ses enfants égarés avaient tort. Il en est beaucoup qui justifient leur colère en disant « Le Seigneur s'est mis en colère lorsqu'il a chassé les changeurs du temple. » Ma réponse est « Non, il n'était pas en colère comme un homme se met en colère. Il était parfaitement maître de lui et savait exactement ce qu'il faisait, car il a dit qu'il ne jugeait rien par lui-même, mais seulement selon les jugements du Père tels qu'il les entendait. De plus, il ne disait que ce qu'il entendait le Père lui dire de dire, et ne faisait que ce que le Père lui montrait à faire. Le Seigneur juge, il nous est interdit de juger. Le Seigneur exerce la vengeance, il nous est interdit de le faire. Le Seigneur fait mourir et fait vivre, il nous est interdit d'ôter la vie. Le Seigneur a sa colère divine, alliée au chagrin et à la tristesse, contre les hommes qui sont des hypocrites religieux, qui pêchent encore, il nous est interdit d'être en colère contre qui que ce soit. La colère est l'opposé du pardon. Vous ne pouvez pas pardonner à quelqu'un et être encore en colère contre lui. La colère est un jugement que nous portons nous-mêmes, et lorsque nous jugeons quelqu'un d'autre sévèrement, nous subissons le même jugement, ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Luc 6, 37 Tant que nous ne sommes pas rendus parfaits, nous ne pouvons pas nous empêcher de nous mettre en colère dans certaines circonstances, mais nous devons nous efforcer de nous débarrasser de la colère. De la parole du Seigneur au-dedans, ne vous laissez pas tromper, la colère doit être éliminée pour entrer dans le royaume. Cela ne veut pas dire que rien de ce que quelqu'un peut faire n'est mal. Je déplore les actes mauvais, mais ceux qui me sont infligés, je réalise que je dois pardonner à la personne et oublier, sinon je souffre davantage. L'amour ne tient pas compte des torts. Jean dit « Quiconque est son frère a commis un meurtre dans son cœur. » 1 Jean 3:15. La colère est l'opposé du pardon. Vous ne pouvez pas pardonner à quelqu'un et être encore en colère contre lui. Ainsi, la solution est double. 1. Réaliser que toute colère est une fausse illusion destinée à dissimuler votre propre incapacité à faire face à une injustice en la laissant passer. Et lorsque vous vous surprenez à tourner en boucle dans le souvenir d'une injustice, vous rappelez que la colère est fausse et cessez de l'entretenir, aussi logique que cela puisse paraître. Votre esprit tentera de vous convaincre que cette injustice est l'exception et que toute colère n'est pas mauvaise, mais ce n'est que votre esprit charnel, satanique, qui cherche à se justifier. 2. Plus important encore, lorsque vous vous surprenez à tourner en boucle dans le souvenir de l'injustice, priez avec ferveur pour la personne qui vous a fait du tort. Je prie pour qu'elle soit aidée à trouver le vrai bonheur. Il ne s'agit pas de prier pour qu'elle soit heureuse au milieu de sa faute, car malgré les apparences, elle souffre pour chaque injustice qu'elle inflige. Je confie à Dieu son chemin vers le bonheur. Je veux seulement qu'elle soit finalement heureuse, et c'est ce pourquoi je prie spécifiquement. Priez aussi pour que le Seigneur vous aide à vous débarrasser de la colère et du ressentiment. Il y a un autre outil puissant dans cette prière, visualisez-vous en train de prendre cette personne dans vos bras et de l'embrasser avec affection. Si j'ai du mal à le faire, je me pose cette question. Est-ce que je souhaite que cette personne souffre les douleurs de l'enfer, alors que moi-même j'ai fait des choses égales ou pires, pour lesquelles Dieu m'a pardonné? Non, je pardonnerai à chacun tout tort qui m'a été fait, afin de l'empêcher de souffrir en enfer. Et ainsi, je trouve alors possible de visualiser le fait de l'étreindre avec amour. Vous ne pouvez pas imaginer quel soulagement c'est d'être libre du ressentiment de cette manière, car heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Matthieu 5, 7. Cette prière et cette visualisation peuvent se faire dans l'attente du Seigneur, lorsque les événements négatifs reviennent pour être rejoués. Faites une pause pour vous rappeler qu'il n'y a aucune justification à la colère, et commencez immédiatement à prier pour ceux qui vous ont fait du mal. C'est ainsi que l'on reçoit l'aide du Seigneur, qui est souvent nécessaire pour nous aider à retirer la blessure de notre cœur, afin que nous puissions oublier. William Penn a dit « Quand ton prochain te fait tort, ne lui en veux pas, aie plutôt pitié de son manque de sagesse et de compréhension qui l'amènerait à commettre ses torts. Nous devrions nous hâter davantage de faire le bien à notre prochain que de lui faire du mal, et au lieu d'être vindicatif, nous devrions le laisser être juge de sa propre satisfaction ou insatisfaction à l'égard de ses actes injustes. Par la miséricorde et la vérité, l'iniquité, le péché est purgé du cœur. Proverbe 16, 6 et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il lui devait. Ainsi mon Père céleste vous traitera aussi, si chacun de vous, de son cœur, ne pardonne pas à son frère ses offenses. Matthieu 18, 34, 35 Il t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bon, et ce que l'Éternel demande de toi, sinon que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Michée 6, 8 Le discernement d'un homme le rend lent à la colère, et sa gloire est de passer par-dessus une transgression. Prove. 19, 11 Ainsi donc, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Jacques 1, 19 Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne pardonnera pas non plus vos offenses. Matthieu 6, 14, 15 Et pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons aussi à quiconque pêche contre nous. Luc 11, 4 Mais maintenant, rejetez aussi tout cela, colère, fureur, méchanceté, blasphème et langage grossier de votre bouche. Col 3, 8 Que toute amertume, fureur, colère, clameur et médisance soient ôtées du milieu de vous, avec toute méchanceté. F 4, 31 Priez pour nos ennemis nous aide, et cela aide aussi ceux qui nous ont fait du mal. Le Seigneur nous a dit d'aimer nos ennemis et de prier pour nos ennemis, de bénir ceux qui nous persécutent, de rendre le mal par le bien, parce que cela ne nous aide pas seulement, cela aide l'ennemi à voir ses fautes et le motive à changer. Par conséquent, si ton ennemi a faim, nourris-le, s'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons de feu sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais triomphe du mal par le bien. Rome 12, 20-21 Si vous ne vous mettez pas en colère contre quelqu'un qui vous traite injustement, votre paix et votre amour le convainquent immédiatement de son tort. Mais si vous vous mettez en colère contre quelqu'un qui vous fait du mal, tout ce qu'il voit, c'est votre tort, et il se sent encore plus justifié dans son injustice. Le juste, le righteous, vivra par la foi. Romains 17, Heb 10, 38 Si vous cherchez Dieu comme première priorité dans votre vie, plus vite vous comprendrez que tout ce qui vous arrive a été arrangé pour vous aider à grandir, plus vite vous serez capable de pardonner, et plus vite vous serez en paix, plutôt qu'en colère ou plein de ressentiment. Cette vie est une illusion. Dieu est bien plus puissant et agit autour de vous bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Pour ceux qu'il aime et qu'il appelle, il contrôle tout ce qui les entoure. Cet agencement des circonstances n'a lieu que pour ceux qu'il aime et qu'il appelle. Et nous savons que toutes choses les personnes comprises concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Rome 8, 28 Et si vous avez une faim profonde, il vous aime et vous a appelé. Cette faim est son don pour vous, c'est sa manière de vous attirer à lui. Ainsi vous aurez faim et vous pleurerez, et vous aurez faim et vous pleurerez. Mais vous serez finalement rassasiés et consolés. Cela marche, ayez confiance en lui, il vous a créé, il est en vous, il vous connaît bien mieux que vous ne vous connaissez vous-même. Il vous changera pour vous rendre semblable à lui, vous conduisant à la pureté puis à l'union avec lui dans le royaume intérieur, où vous marchez par la lumière de Dieu. La parole du Seigneur au-dedans m'a dit, Vis dans la forteresse de la foi, où cela n'a pas d'importance que quelqu'un te donne un baiser ou te frappe avec une batte de baseball, sachant que tout ce qui m'arrive est totalement sous son contrôle et sa direction. Donc si je suis frappé avec une batte de baseball, il m'enseigne la nécessité de pardonner, d'ignorer cela, malgré la douleur subie et la méchanceté de la personne qui brandit la batte. Votre vie est un parcours d'obstacles, conçu par Dieu, pour que vous rampiez par-dessus et au travers, en apprenant à pardonner et à aimer malgré la douleur et l'injustice. Cette vie est un camp d'entraînement pour produire un soldat de l'amour, dont l'arme est l'épée de l'esprit, la parole vivante de Dieu. Lorsque vous réalisez que c'est Dieu qui a permis à cette personne d'être impolie, laide et douloureuse envers vous, vous pouvez facilement lui pardonner parce qu'elle n'est qu'un obstacle de ressentiment potentiel, dont l'offense doit être passée par-dessus, ou si elle ne l'est pas, produire la douleur du ressentiment, étant ainsi utilisée par Dieu pour vous aider à progresser spirituellement. Comment vivre dans cette forteresse de la foi? La parole du Seigneur au-dedans m'a enseigné à ne rien attendre, ainsi je ne suis ni surpris ni déçu. Je ne suis pas parvenu à la perfection, donc parfois je dois simplement rester silencieux ou me retirer. D'autres fois, je suis capable de comprendre simplement que ce qui m'arrive est arrangé par le Seigneur pour m'aider à surmonter un problème que j'ai, alors je peux m'appuyer sur ma foi et ne pas réagir. Je dois réaliser que je ne peux pas surmonter un problème à moins d'être confronté à la tentation de me mettre en colère et de répondre par une critique. Ainsi, je peux voir l'injustice comme un test destiné à m'aider à grandir, et il est beaucoup plus facile de pardonner à la personne qui distribue l'injustice. Cependant, de la parole du Seigneur au-dedans, si les gens veulent prendre une décision de mauvais choix, c'est leur prérogative. Donc, ne croyez pas que Dieu a poussé quelqu'un autour de vous à faire quelque chose de mauvais qui vous affecte. Il protège votre vie afin que vous puissiez être achevé, mais il n'empêche pas ceux qui vous entourent de mal à agir. D'autres ont écrit que, face à toute tentation, ils fuient simplement vers le Seigneur et dépendent de sa grâce. Ma femme a été instruite par le Seigneur à être simplement triste lorsque des attaques surviennent, comme le Seigneur lui-même a réagi aux injustices qu'il a subies. Pour moi, j'ai besoin de me rappeler que ce qui arrive est la volonté du Seigneur pour m'aider à grandir, et cela marche vraiment pour moi. Je peux me détendre et même sourire intérieurement lorsque je m'en souviens. Le pardon fait partie du fait de porter sa croix. Pardonner, c'est renier votre nature humaine qui veut rendre les coups. Même si vous ne frappez pas réellement, vous en avez envie. Reniez cet élan et vous appuyez sur votre foi pour accepter toute chose comme venant de la main de Dieu, c'est porter la croix, vous dire « que la volonté du Seigneur soit faite », ce qui est l'occasion de ma propre croissance en passant par-dessus cette offense, même si ce sont des proches qui infligent l'injustice, ce qui vous rend triste. Les proches nous traitent souvent injustement comme une manière de nous contrôler et de nous manipuler inconsciemment, à mesure que vous cessez de réagir. Ne serait-ce qu'avec vos yeux et vos expressions du visage, ils n'obtiendront pas la satisfaction du contrôle qu'ils recherchaient et finiront par abandonner leur routine habituelle, cherchant un autre moyen de vous provoquer. Attendez-vous à ce que votre famille proche soit la source de bon nombre de vos problèmes, car le Seigneur nous a dit « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais une épée. Car je suis venu mettre la division entre un homme et son père, une fille et sa mère, et une belle-fille et sa belle-mère. Les ennemis d'un homme seront ceux de sa propre maison. » Matthieu 10:34-36. Il se sert de notre famille comme de pierre à polir de la tentation, destinée à user nos aspérités jusqu'à ce que nous soyons lisses. Un homme doit vouloir plaire à Dieu plus que plaire à sa femme, à ses enfants, à ses amis, etc. Sinon cet homme ne peut pas être un disciple de Jésus. Un homme doit vouloir l'approbation de Dieu plus que l'approbation des hommes, en particulier de sa famille. N'ignorez pas un commandement du Seigneur parce que votre famille désapprouve votre obéissance. Si vous le faites, vous risquez de ne plus rien entendre de lui. Cela fait partie de la croix, souffrir de l'opposition de sa famille. Mais cela vous oblige à avoir de la patience, à pardonner, à avoir de la miséricorde, à aimer et à vivre par la foi. De la parole du Seigneur au-dedans, après qu'un homme a démontré sa foi, je lui donne la paix. Le pire, quand on est attaqué par des membres de sa famille, c'est qu'ils vous connaissent si bien que leur attaque déforme vos actions innocentes pour leur donner l'apparence du mal, et cela peut être effrayant. Comprenez que c'est exactement de cette manière que le diable nous condamne, il tord nos actions sous le pire jour possible, nous accusant de motivations mauvaises, espérant nous déprimer, nous décourager ou nous mettre en colère. Lorsque vous avez été sous l'instruction du Seigneur pendant quelque temps, il vous dira que personne ne vous juge. Il est le seul juge. Paul a dit qu'il ne se jugeait même pas lui-même. Rappelez-vous que les gens cherchent seulement à vous provoquer et à obtenir la satisfaction de vous rendre en colère ou déprimé, Votre meilleure défense est de rester calme. Le Seigneur nous a dit, décroche de la conversation, laisse leurs paroles te passer au-dessus de la tête. Après avoir décroché, sans personne pour riposter, certains abandonneront leur attaque. D'autres continueront, lorsqu'ils font une pause, partez calmement. Si vous vous mettez en colère, retirez-vous au plus tôt et rappelez-vous ensuite votre foi. Le Seigneur nous a dit, ne te tiens pas devant des volcans, les volcans étant des personnes en colère qui entrent en éruption, retirez-vous calmement dès la première pause. Pourquoi écouter des personnes irrationnelles en colère? Quand les gens sont en colère, ils sont submergés par leurs émotions, ce qu'ils disent n'est pas ce qu'ils diraient sans la colère. C'est leur colère qui parle, pas eux-mêmes. La colère est irrationnelle, alors ne vous donnez pas la peine de vous demander si ce qu'ils disent est vrai. En partant, vous pourriez, seulement si vous pensez que le sujet doit être résolu, leur dire « Quand vous vous serez calmé, je suis disponible pour en parler davantage, mais il est inutile de poursuivre notre discussion maintenant. » Certaines personnes ont été conditionnées par leur éducation à penser que si quelqu'un est en colère contre elles, c'est leur faute. D'autres sont conditionnées à riposter. Les deux ont également tort. Décrochez, si cela ne marche pas, éloignez-vous. Le pardon, la miséricorde et le fait de ne pas juger sont liés. Ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés. Matt 7:1. Juger et être jugé n'est pas Dieu qui vous punit, c'est plutôt vous qui vous punissez vous-même en nourrissant un ressentiment qui résulte de votre jugement. Vous ne pouvez pas juger correctement quelqu'un parce que vous n'avez pas marché dans ses chaussures, mais Dieu, lui, l'a fait depuis sa naissance. Il a été témoin de chaque parole, de chaque pensée, de chaque action, de chaque incident de sa vie. Ainsi, lui seul peut comprendre suffisamment leur passé pour porter un jugement correct. Par exemple, une étude a été faite sur des prostituées, hommes et femmes, dans les rues de San Francisco, et l'immense majorité d'entre eux avaient été violées par un membre de leur famille dès le plus jeune âge. Un enfant violé ressent souvent qu'il était d'une manière ou d'une autre partiellement coupable de ce qui est arrivé, puis il commence à penser qu'il ne vaut rien et n'est bon qu'à répéter l'erreur avec d'autres. Dieu connaîtrait toutes ces circonstances dans le moindre détail, y compris toutes les pensées qu'ils n'ont jamais eues. Il a aussi un registre de chaque supplication anonyme qu'il a adressée à chacun de nous pour nous faire quitter le mal. Il pourrait donc prendre une décision correcte concernant une telle personne, mais il nous est impossible de faire de même. Il existe un vieux proverbe indien, « Ne juge jamais un homme tant que tu n'as pas marché un mille dans ses mocassins. » Dieu a été avec nous à chaque pas tout au long de la vie de chacun, mais nous n'avons pas fait un seul pas avec eux. Ainsi, seul Dieu est capable de juger avec justice le comportement des autres. Si votre prochain vous fait tort, pardonnez-lui et résistez à la colère en la remplaçant par de la tristesse devant son manque de sagesse que vous avez eu la chance de recevoir. Récemment, j'ai été plus que déçu par quelqu'un que j'avais essayé d'aider. La parole du Seigneur au-dedans m'a dit, « Il est de la même terre que toi », ce qui m'a conduit à considérer que lui et moi étions des êtres créés, issus d'un même sang et d'un même moule, et que je ne connaissais vraiment pas son passé d'expérience qui aurait pu le programmer à certaines faiblesses. De plus, j'ai commencé à voir que c'est sans fondement, pour un être créé, d'être critique envers un autre être créé. Plus tard, j'ai entendu la parole du Seigneur au-dedans dire « Ton défi est de te considérer comme égal à tous les autres ». En y réfléchissant, j'ai compris que la seule différence entre moi et tous les autres était que j'avais été instruit dans la sagesse, et tous les autres le seront aussi, certains plus tard que d'autres, mais finalement, comme Jésus l'a dit, il est écrit dans les prophètes, et ils seront tous enseignés par Dieu. Jean 6:45. Un autre enseignement lié que nous avons reçu du Seigneur est que ces personnes encore enfermées dans le péché sont simplement spirituellement plus jeunes que nous. Leur maturité spirituelle est encore à venir, et la plupart ne mûriront qu'à la vie suivante, voire y a-t-il de l'espoir pour tous pour en savoir plus sur le processus d'apprentissage dans la prochaine vie. J'ai conclu que ma déception était en réalité une colère voilée contre son échec, et que je n'avais pas le droit de conclure que, simplement parce que je pouvais clairement me voir faire ce qui est juste, mes expériences de vie étaient totalement différentes des siennes, et que je n'avais donc aucune idée des tiraillements émotionnels auxquels il devait faire face en raison de ses expériences passées. Alors, je me suis efforcé d'ignorer sa faiblesse et son échec, en substituant la compassion au prix qu'il continue de payer, et j'ai ensuite entendu la parole du Seigneur au-dedans dire « Aime la miséricorde ». Comme pour les avertissements sur le jugement, la colère et le pardon, nous sommes aussi avertis d'être miséricordieux. Celui qui n'a pas fait miséricorde recevra un jugement sans miséricorde, mais la miséricorde triomphe du jugement. Jacques 2:13 de la parole du Seigneur au-dedans, « Ne parlez jamais de manière critique d'un individu ou d'une organisation, aussi mérite-t-il la critique, Et sois aveugle aux fautes oppressives des autres. Soyez particulièrement aveugle aux fautes oppressives de vos compagnons croyants, ceux qui croient au véritable évangile, ont la véritable espérance et cherchent ardemment le royaume, faute que nous avons tous jusqu'à ce que nous ayons été purifiés. Lorsque vous avez suffisamment de l'Esprit de Dieu en vous, il se peut que vous soyez spécifiquement poussé par des paroles de Dieu à prononcer un jugement sur quelqu'un en particulier, mais ce ne serait pas vous qui jugeriez, ce serait Dieu. Tout comme Jésus ne se jugeait pas lui-même, de moi-même, je ne puis rien faire, je juge seulement selon ce que j'entends, Jean 5, 30. Ce que je le dis comme le Père me l'a dit. Jean 12, 49, 50, le Fils ne peut rien faire de lui-même par sa propre volonté, mais il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, Jean 5, 19. Avez-vous du mal à ne pas vous mettre en colère face aux injustices? Si oui, attendez-vous alors à ce que davantage d'injustices vous arrivent, car c'est ainsi que vous allez être guéris. Le Seigneur travaille sur nous, un problème à la fois, jusqu'à ce que nous soyons guéris de la douleur de l'échec. Et même après avoir été guéris, nous aurons parfois de petits cours de rappel pour nous rappeler la récompense du pardon ou la douleur du ressentiment. Le but de ce site web est de montrer comment être libéré du péché en bénéficiant du pouvoir transformateur de Dieu par la croix, ce qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.